Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Médien. Essentiel. Mehdi Jaziri.
Très chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Médien Radio pour cette toute première émission. Nous sommes avec Marie Binbin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, contexte un peu particulier. Nous sommes chez vous, à Essaouira. Très belle maison pour les auditeurs radio qui ne voient pas. Nous sommes en train de déjeuner, c'est le principe de cette émission. Donc on s'excuse tout d'abord pour les bruits de bouche, évidemment. C'est la contrainte de cette émission, voilà.
Avec un tagine aux oignons.
Merveilleux, merveilleux tagine.
On a le droit de faire un peu de bruit.
Alors, rappelons quand même, pour les auditeurs, peut-être certains auditeurs ont le droit, c'est vous qui... Est-ce que les auditeurs ont le droit de ne pas vous connaître ?
Absolument.
Il y en a qui ne vous connaissent pas.
Les gens qui ne lisent pas, qui ne vont pas voir les expos, ne me connaissent pas.
Vous êtes écrivain, sculpteur, peintre. Vous pourriez même être humoriste, vous êtes très drôle.
au départ, je voulais être chanteur de charme.
Ah.
Mais on m'a dissuadé, on m'a dit, ne
j'imagine,
chante pas.
Oui, j'imagine.
On a entendu, arrête. Et donc voilà.
Vous êtes né en 1959. À Marrakech.
Mm-hmm.
Vous partez à Paris en 1980, étudier les mathématiques alors que vous n'étiez pas scolaire quand même, enseigner pendant 8 ans, puis New York de 1994 à 1999, retour définitif à Marrakech en 2002, mon année de naissance. Vous dites que vous avez grandi dans ce que vous décrivez comme une famille shakespearienne. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement ?
Ben, mon père était le bouffon du roi Hassan II, c'est-à-dire son compagnon, c'est un théologien, un poète. Il a été repéré par Hassan II, donc il est... Mais au moment où il est parti à Rabat, il s'est séparé de ma mère. Donc ma mère est restée seule à Marrakech avec ses 7 enfants. Et l'un de ses enfants, l'aîné, Aziz, a participé au coup d'état de Skhirat en 1971, on a voulu tuer le roi. Et il était militaire, il était sous-lieutenant à l'époque, bien jeune de 24 ans, de ton âge. Et donc il a fini à Tazmamart. Donc je viens d'une famille où le père est au palais pendant que son fils est à Tazmamart. Si c'est pas du Shakespeare ça, alors je ne sais pas comment on va appeler ça.
Et alors donc vous partez à Paris pour faire des mathématiques, pas pour devenir artiste. À quel moment précis vous vous êtes dit déjà, je vais faire ça, ce qui me paraît assez lunaire en discutant avec vous, parce qu'on a quand même discuté pendant presque une heure ensemble. Et à quel moment ensuite vous vous êtes dit, ça y est, je ne veux plus faire ça de ma vie?
Vraiment, je voulais être... Je suis musicien. Oui. Je suis guitariste.
Mais pas chanteur, du coup, de ce que j'ai compris.
Mais justement, j'ai pas une très belle voix. Et quand on est artiste, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop la voie, c'est-à-dire... Mais moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment.
Oui.
Et donc, oui, j'ai fait des maths à Jussieu, après je suis devenu prof à Paris pendant 8 ans.
Oui.
Mais pendant cette période, j'ai rencontré un écrivain espagnol qui s'appelle Agustín Gómez Arcos. Mmh. Et lui, il savait qu'il y avait un artiste qui sommeillait.
Comment est-ce qu'on décèle l'artiste chez quelqu'un ?
D'abord parce que lui-même est artiste, il est écrivain, dramaturge. Il a fui le franquisme pour s'installer à Paris. À Paris, à l'époque, c'était une terre d'accueil. On accueillait les...
À l'époque, précisez bien, à l'époque.
À l'époque, oui. C'est plus difficile aujourd'hui. Et Agustín a repéré qu'il y avait l'artiste.
Oui.
Et donc, je jouais, je composais mes chansons, etc. Voilà. Moi, je pense que tu devrais écrire parce que tu as une jolie plume. Parce qu'à l'époque, quand Franco est mort, Agustín pouvait aller à Madrid, on s'envoyait des lettres. Et à l'époque... Les lettres, c'est que tu n'as pas connu ça, toi, les lettres.
Ah non.
Les lettres,
c'est... Alors, les lettres d'amour que tu envoies à une femme qui ne te répond jamais, j'ai connu. Voilà. Mais les lettres, non. Non,
mais
non.
Mais c'est-à-dire, tu écris une lettre.
Oui.
Presque, tu tailles ta plume. Non, ce n'est pas vrai. Tu écris une lettre.
Tu n'as vécu au Moyen-Âge non plus, ma vie.
Tu vas à la poste, tu achètes un timbre et tu rêves. Et tu te dis, peut-être elle va arriver, peut-être elle ne va pas arriver.
Oui.
Vous, vous avez vécu avec les messages Instagram,
Snapchat.
Quand il y a deux minutes, il n'y a pas une réponse pendant deux minutes, c'est la fin de l'été. Non, nous, il y avait une poésie, il y avait une lenteur que nous avons perdue. Il y a vraiment une belle lenteur. Et je n'ai pas envie de parler comme un vieux crouton, mais vraiment, il y avait de la poésie dans la... Donc, Agostinho, quand il était à Madrid, on s'envoyait des lettres.
D'accord.
Et il m'a dit, tu as une jolie plume, tu devrais écrire. J'ai dit, mais je vais écrire quoi? Mais je ne sais pas, hein, vous les Arabes, vous, dans ta famille, tu vas trouver des histoires. Vous avez tous des histoires incroyables.
La fameuse famille shakespearienne. Alors, attention, quand même 8 ans, vous l'avez dit, à enseigner les mathématiques. Moi, personnellement, je me sers pas d'un compas aujourd'hui. Ça sert à rien, le compas. D'ailleurs, Gad Elmaleh, on avait parlé dans son sketch. Qui se sert d'un compas aujourd'hui? Personne.
Alors, personne.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette rigueur-là dans votre manière de peindre ou d'écrire aujourd'hui des mathématiques?
Je crois que les mathématiques, c'est quelque chose de fondamental, dans ma vie en tout cas.
D'accord. Encore aujourd'hui, donc?
Encore aujourd'hui.
Oui.
Parce que j'essaie de convaincre mes filles qu'il y a une telle poésie dans les mathématiques. C'est beau, les mathématiques.
Je n'ai jamais entendu ça.
Mais c'est une poésie, c'est un miracle, les mathématiques. On parle.
Expliquez-nous, donnez envie aux gens, par exemple, j'imagine qu'il y a peut-être des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui veulent nous écouter et qui se disent, mais alors moi je vais à l'école tous les jours, je ne vois pas la poésie dans les mathématiques.
Quand on fait des maths un peu poussées, on voit le miracle. Cosinus carré plus sinus carré égale 1, c'est un miracle.
Mais où est ce miracle? Moi, je le vois en enfer.
Mais vraiment, vraiment, j'essayais de dire ça à mes filles quand j'étais... Parce que je leur donnais des cours de maths. Et elles détestaient les maths, évidemment. Et j'essayais de leur vendre ce truc. Parce, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? C'est partir d'un point A, arriver à un point B, et évoluer dans un espace où il y a des contraintes, etc. Un roman, qu'est-ce que c'est? Un roman, c'est ça.
Partir... Il y a de la vie. Un roman, il y a de la vie, je suis désolé.
Mais les mathématiques, la vie qu'il y a dans les mathématiques. Mais c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel.
D'accord.
Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis un passionné.
D'accord.
Mais maintenant, ma femme, elle me voit, maintenant que je ne fais plus
de maths. Votre femme qui est autour de notre table,
elle ne sera pas
à l'image, parce qu'évidemment, nous faisons du contenu pour les réseaux sociaux. Mais elle est à notre table, elle est présente. Votre femme qui est très gentille, très sympa.
Ouais. Voilà. Elle me voit encore aujourd'hui voir des émissions sur mon téléphone où il y a des résolutions de...
Ah bon?
Ah oui, oui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben écoute, là c'est des
maths. Marie Binbin, c'est la seule personne qui va regarder des tutos YouTube de cosinus carré, de je ne sais quoi encore, et qui va prendre du plaisir à ça. Bon, Marie Binbin, parlons de New York, 94-99. Qu'est-ce que cette ville vous a donné que Paris ne vous donnait pas?
C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, je suis dans beaucoup de musées. Je suis au Guggenheim, je suis au Smithsonian, je suis au Pérez Art Museum, je suis partout. À Paris, je ne suis dans aucun musée. Je suis français, ça ne se voit pas sur ma tête comme toi.
Jamais non plus, voilà, c'est ça.
Mais en Amérique, on ne veut pas savoir ton pédigré. On te demande, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas me donner là? Montre-moi. Et on te juge sur ce que tu fais.
À Paris, on te juge sur ce que tu es. C'est ce que vous voulez dire?
Sur ce que tu es.
D'accord.
Voilà, et c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué. Surtout pour nous, pour les gens de l'immigration.
Et alors, moi je viens au monde. Maman accouche Mehdi en 2002. Vous, à ce moment-là, vous revenez à Marrakech. Qu'est-ce qui vous a fait peur au moment de revenir? Si quelque chose vous a fait peur, est-ce que ce serait l'idée de retrouver une ville qui avait changé ou de ne plus vous reconnaître vous-même là-dedans?
C'est-à-dire,
aucun des deux peut-être.
Après New York, j'étais à New York, j'ai un frère qui est très riche et il nous a donné une maison énorme à East Hampton où il y avait 11 chambres, il y avait à côté de la mer. Et je me suis installé d'abord les deux premières années à New York, après à East Hampton et j'avais la quarantaine. Et j'étais presque en retraite puisque j'avais ma femme, mes enfants, la voiture, la maison, la mère. Et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre ma retraite.
Oui.
Et donc, en 99-2000, j'ai dit à mon frère, écoute, j'ai envie de retourner à Paris. Je ne suis pas très heureux ici. Je voulais retourner à Paris.
Oui.
Mes éditeurs. Même quand j'étais à New York, je lisais Le Monde, je regardais TV5. Enfin, j'étais en France. Je suis pas entré dans cette culture.
Le corps à New York, l'esprit encore à Paris.
Donc, je suis revenu à Paris et je comptais m'installer à Paris.
Oui.
Et on est arrivé en 99, on s'est installé. Donc, tout allait bien. Et en 2002, qu'est-ce qu'il y a en 2002 ? Il y a les élections présidentielles. Et dans ces élections, je vois Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Ouais.
C'est-à-dire, je vois un monstre...
Face à Jacques Chirac.
Qui pouvait devenir président du pays de Voltaire et de Hugo. Et de... Voilà. Et là, j'ai pris la décision. D'ailleurs, ma femme en a voulu tout de suite, parce qu'on a pris la décision très, très vite. De rentrer au Maroc. Le pays était en train de s'ouvrir, de se démocratiser. Mmh. Il y avait le retour des détenus politiques. Mmh. Il y avait instance et réconciliation. C'est majeur. C'est ce qu'a fait Mohamed VI au début de son règne.
Mmh. Il a été très courageux.
Il a été très courageux.
Très courageux.
Instance et réconciliation. C'est-à-dire, il a invité des gens à la télévision marocaine, la première chaîne, à une heure de grande écoute, et il racontait comment on les a torturés, comment on a fait. C'est-à-dire, il fallait une espèce de catharsis, il fallait crever l'abcès, il fallait que les gens respirent.
Il a fait des choses, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Habib Bin, quand même, que dans d'autres états, pour ne pas parler de son père, qui lui aussi a eu beaucoup de courage, que vous connaissez sans doute même mieux que quiconque, Mohamed VI a eu le courage de faire quand même beaucoup de choses que les états voisins n'ont pas eu.
Bien sûr, d'abord.
Encore plus à son époque.
Oui, il a été courageux dès le départ avec le statut de la femme, le code.
Bien sûr.
Ça, c'était. Mm. Et il paraît que personne ne l'a vu venir. Il est arrivé un jour au Parlement, boum !
Oui.
Non, mais c'est bien. La femme a une place aujourd'hui importante dans ce pays. Mm. On n'y est pas encore.
Mais comme dans d'autres pays, France, on pourrait dire qu'on n'y est pas encore non plus.
Bien sûr. Mais... Et donc, en 2002, je décide de rentrer. Et c'est la plus belle des décisions que j'ai dû prendre dans ma vie, c'est de retourner au Bercail, retourner à Marrakech, retourner vivre avec les miens. Et je suis très content.
Marie-Limine, je vous propose de... Dans chaque partie, on fait une petite interview à thème. Je propose de faire l'interview d'Yvan. Des réponses courtes, vous ne devez pas réfléchir, vous répondez. Vous êtes prêts ? Vous perdez la mémoire. Si vous devez choisir une personne pour vous rappeler qui vous êtes, ce serait qui ?
Ma femme. Elle est là. Et si je dis quelqu'un d'autre, elle va...
Il y aura des problèmes. C'est aussi un test conjugal, attention. Si vous pouviez effacer un seul souvenir de votre vie, lequel choisiriez-vous et pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ?
Thèse ma mère et ma mère qui attend mon frère dans le bagne.
Si on vous filmait à votre insu pendant une journée entière, qu'est-ce qui vous gênerait le plus qu'on découvre ?
Je ne peux pas le dire.
Je vais le dire. Quelle est la dernière fois que vous avez menti par gentillesse ?
Par gentillesse ?
Oui.
Mais moi, je mens tout le temps parce que...
De toute façon, votre femme est en face. Quelle est la dernière fois que vous avez menti par gentillesse ? Je regarde votre femme en disant ça.
Un écrivain, on nous paye pour mentir. T'imagines un peu ?
Oui.
On nous paye
vous
pour
comprenez bien, Marie-Guinville, ne soyez pas trop politique là-dessus, que je parle dans un cadre privé à ce moment-là.
Moi, je n'ai jamais envie de vexer les gens ou dire des choses.
Oui.
Donc, c'est vrai que je mens, et c'est pas grave.
Mais alors, quand tu es là, vous regrettez ou pas quand vous montez comme ça ?
Non, je ne regrette pas. Bon. Si le mensonge égaye un peu la vie, mentons.
Quel est le conseil que vous donnez aux autres, mais que vous n'arrivez pas à appliquer à vous-même ?
Faites du sport, mangez léger. Et je fais absolument l'inverse.
Ah, si vous pouviez réécouter une seule conversation de votre vie, laquelle ce serait ?
Une conversation.
Une seule conversation.
Avec quelqu'un ?
Vous pouviez la réécouter tout de suite, maintenant, comme on écoute un podcast sur le site internet de Média Radio.
Une conversation avec Agustine.
Oui.
Agustine qui m'a tout appris quand j'étais jeune écrivain.
Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée ? Vous espérez qu'on vous pose un jour.
Tu as pompé sur qui ?
Et alors, vous avez pompé sur qui ?
Mais tous les
vous
artistes...
Vous avez pompé sur qui ? Je vous pose la question, Marie-Limine, répondez.
Tous les artistes sont des pies voleuses. J'ai pompé sur tout le monde.
D'accord.
J'ai pompé... Moi, quand je vois un tableau de Goya, je me dis, je vais être Goya. Mais c'est vrai. Et c'est pas grave.
Si votre pire ennemi devrait vous décrire en trois mots, lesquels utiliserait-il ?
D'ailleurs, on me l'a fait dans une interview récemment où j'ai dit quelques boutades, comme c'est ma nature, et ils ont pris les gros titres de mes boutades. On m'a demandé, est-ce que tu veux être ministre? J'ai dit, mais je gagne mieux qu'un ministre en faisant un tableau qui me prend une demi-heure. Quand j'ai dit, je gagne plus qu'un ministre, ils m'ont dit, Mahi est vénal.
Donc vénal.
On peut tout dire de moi, sauf vénal. Oui. Quelqu'un qui passe sa vie à...
Mahi Binbin, je ne vous ai pas demandé de vous défendre. Non. On s'imagine bien que vous n'êtes pas vénal, vous gagnez plus que nous trois.
Ah aussi. Non, mais...
quels sont les trois mots?
Donc, vénal, ça c'est, vénal. C'est injuste. Égoïste.
Égoïste.
Et infidèle.
Votre femme n'est pas là.
Non, elle n'est pas là, mais...
elle est repartie.
Infidèle, ce n'est pas forcément l'infidélité du couple. En amitié, en amour. Oui. Je suis très fidèle. Et ça, c'est... Donc, dire que je suis infidèle, pour moi, c'est une méchanceté.
C'est même peut-être le pire des trois.
Oui, c'est le pire des trois.
Dernière question. Si on gravait une seule phrase de vous sur une pierre après votre mort, laquelle voudrez-vous que ce soit?
Il a fait un bon job.
Il a fait du mieux qu'il pouvait.
Et je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est la vérité.
On va parler de Nocta. Votre recueil de nouvelles paru chez Le Fennec en 2026. Que je n'ai pas lu, et je l'assume totalement parce que...
C'est rare ça, les journalistes.
Les journalistes actuellement font croire qu'ils ont lu le truc. Bon, présenté à Tanger en juillet. Rupture de ton assumée, après des romans plutôt graves où vous explorez l'humour, l'absurde, le grotesque même. Le titre du livre, Nocta, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne le connaissent, qui connaissent pas ce mot? Alors, le mot... Pourquoi c'était le bon titre? Pourquoi c'était le bon titre surtout?
C'était pas mon titre, c'est le titre, c'est l'éditeur, l'éditrice à Paris, qui a Isabelle Baudis, parce qu'elle a été publiée d'abord à Paris, après au Maroc, aux éditions Orient. Et moi, le titre que je lui avais donné, c'était « Mes histoires secrètes ». Et elle m'appelait un jour pour me dire « Écoute, il y a un mot qui vient d'entrer dans la langue française, c'est « nocta ». Et ça veut dire « histoire drôle ». Et ce serait bien que tu l'appelles. Elle me l'a vendu tout de suite, donc j'ai accepté tout de suite. Et « nocta », ça veut dire « histoire drôle ». Et à Marrakech, les gens vivent. Oui. Des nocates, de ces histoires. Les gens vivent à Marrakech dans l'imaginaire. Ils sont, mais vraiment, à Marrakech, on ne te dira pas la ville est rouge parce qu'il y a des peintres en bâtiment. On dit non, la ville est rouge parce qu'on a, le jour où on a planté la Koutoubia au cœur de la ville, elle a tellement saigné. C'est-à-dire, les gens ont un imaginaire assez incroyable et les gens rient beaucoup à Marrakech.
Après des romans plutôt graves, vous choisissez de faire rire. Pourquoi maintenant?
Parce que nous traversons une époque morose. Ce que je vois autour de moi me déprime. Oui. Et je me suis dit, c'est le moment de faire rire les gens. Et j'ai écrit ce recueil de nouvelles, parce qu'il y avait plein d'histoires. Mais j'ai raconté plein d'histoires. J'ai raconté comment Sarkozy n'est pas venu à la maison. Un jour, on m'a appelé pour me dire, le président vient en visite officielle à Marrakech, il veut voir un artiste. Et je dis, mais qu'il vienne. Mais je n'avais pas réalisé ce que ça voulait dire.
Oui.
Ce que ça voulait dire, ça veut dire qu'on a refait le goudron depuis l'avenue jusqu'à chez moi. On a repeint les trottoirs.
Oui.
J'ai vu des gens chez moi pendant une semaine. Ils ont ramené des chiens. Enfin, une semaine de folie. Oui. Et comme je n'ai pas voulu la jouer solo, j'ai invité la plupart des artistes de Marrakech pour recevoir le président. On savait qu'il allait avoir la presse, machin. Et donc, on a tout préparé, on lui a préparé son jus d'orange, on a fait un accrochage.
Tout ça pour qu'au final, il ne vienne pas.
Et à 17h45, l'ambassadeur m'appelle, il me dit « Le président est en retard, il doit sauter une étape. » Et donc, l'étape à sauter, c'était notre étape.
Et pas... Et alors, est-ce que c'est plus facile d'écrire pour faire rire ou que d'écrire pour émouvoir?
Je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas. J'écris, moi... Hier, j'ai fini mon livre. Et quand je l'ai fini, j'étais en train de pleurer tout seul à 4h du matin. Et je me suis dit, mais tu inventes une histoire et tu pleures sur un truc qui n'existe pas, que tu viens d'inventer. Mais c'est ça. Donc, quand je pleure, je sais que l'autre va pleurer. Quand je ris dans un texte, je sais que le lecteur va rire.
Alors, comme je vous ai dit au début, ce livre, moi, je ne l'ai pas lu. Donc, en fait, si on poursuit à parler d'un livre que je n'ai pas lu, l'interview va être nulle. Alors, donc, tant qu'à faire, je vous propose de lancer l'interview nulle.
Ok.
Alors, Nocta, ça fait combien de pages exactement?
120 pages, 120 pages.
Le livre est publié chez Le Fennec. C'est en quelle couleur la couverture?
Ben, c'est un tableau à moi, en France et au Maroc, c'est la même couverture.
Ouais.
Et c'est un tableau que j'avais peint en 1997-98. Et c'est l'éditrice qui l'a choisi. Il est dans les tons bleu-gris.
Il y a combien d'histoires dans votre recueil, vous les avez comptées?
22.
Le zèbre blanc du livre dont vous parliez, il a un nom, il s'appelle juste le zèbre?
Le zèbre, oui. Il s'appelle Olfi.
Olfi.
Ouais.
Vous l'avez écrit à la main ou à l'ordinateur?
À l'ordinateur, toujours.
C'est vous qui avez choisi la police des caractères de la couverture?
Non, ça c'est l'éditeur.
La dédicace à Tanger, ça a duré combien de temps précisément?
1h30, 2h.
Sénégal, Gorée, vous êtes allé en avion ou en bateau pour écrire ce passage?
En avion.
Vous avez accepté de participer à l'interview nulle? Oui ou non, cette interview était-elle vraiment nulle?
Non, elle n'était pas nulle du tout.
Bon, bah, c'est gentil. J'espère que vous n'êtes pas dans le compliment.
Non, pas du tout, non. Bah...
J'aimerais qu'on parle, pour finir cette émission, d'un sujet très important qui vous a tenu à cœur, j'imagine, puisque vous avez d'abord pour Libération, ensuite c'était repris par d'autres journaux donnés.
Le Pays,
ça. Le Pays et l'Opinion. Moi, j'ai lu l'Opinion. Voilà. Donc, suite à la crise migratoire de Septa, vous avez publié une tribune reliant l'actualité à votre roman Cannibale, paru en 1999, qui racontait déjà la tentation de l'exil chez les jeunes Marocains. Il y critique le terme administratif de pression migratoire, rappelle que derrière chaque migrant, il y a un prénom et une histoire, et conclut que la responsabilité collective n'est pas d'empêcher les jeunes de partir, mais de leur donner la liberté de rester, et qu'un avenir aussi est possible chez eux. 27 ans plus tard, avec Septa, qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
Le Maroc vraiment fait des grands pas en avant, on le voit. Mais il y a plein de gens qui ne s'y reconnaissent pas. Les jeunes ne s'y reconnaissent pas. Cannibale, je l'ai écrit en 99. À l'époque, c'était pas un sujet à la mode. Hein. Personne n'en parlait. Et je voulais comprendre pourquoi des jeunes, tout en sachant qu'ils allaient mourir, ils partaient quand même. Et donc...
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le Maroc est de 2026 est le même que le Maroc de 1999, quand j'ai écrit Cannibale. C'est un autre monde. À part que cette évolution, elle profite pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le bord du chemin. Et ça, c'est ces jeunes. Quand on a ouvert les centres dans ces zones-là, on ne prétend pas vouloir les empêcher de partir. Mais on leur apprend la musique, le cinéma, la danse, la photographie, l'image. Et on leur dit, mais on les appelle les étoiles, mais vous êtes magnifiques, vous avez un pays magnifique, vous pouvez le transformer, c'est à vous de faire le job. Et je leur donne l'exemple, moi, ma mère, cet enfant, elle était secrétaire, et elle nous a dit, elle a dit aux sept enfants, vous n'avez pas le droit de vous planter, vous devez travailler plus que les autres, parce que les autres ont des facilités, pas vous. Donc, et vraiment, il y a mes trois sœurs qui sont docteurs en littérature, j'ai un frère qui est devenu milliardaire à New York, j'ai fait une carrière honorable, c'est-à-dire vraiment, on a tout, même celui qui avait...
Vous êtes passé de la victime au soldat.
Il y a un mensonge absolument, un gros mensonge, l'Europe est en train de vieillir. Ils ont besoin de jeunesse, ils ont besoin de main-d'œuvre pour payer leur retraite et leur... Mais ils ne peuvent pas le dire électoralement. ça ne se vend pas.
Oui.
C'est-à-dire, en Espagne, les cultures dans les fermes, mais c'est des Marocains. C'est-à-dire, on les veut sans les vouloir.
Alors, Marie Binbin, cette interview touche à sa fin. Je propose une carte blanche. Beaucoup de jeunes à Septa sont encore connectés aux réseaux sociaux. Vous avez une histoire, vous avez un vécu qui fait que vous avez la légitimité de le faire. Je vous demande, si vous le voulez bien, peut-être d'avoir quelques mots pour ces jeunes qui ont l'espoir peut-être de partir ou qui devraient peut-être se dire de rester, peu importe.
Je ne peux pas vous empêcher de partir. Tout le monde a envie d'avoir une vie meilleure. Quand il y a eu les événements de Ceuta, j'ai écouté des gens parler. Et des gens, un pâtissier, je l'ai entendu parler, disait, je suis pâtissier, j'ai un emploi, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, mais je gagne 2500 dirhams. Je ne peux pas dire à ce gars, ne va pas chercher une vie meilleure quelque part. J'ai plutôt envie de dire à l'État, occupez-vous de ces gamins. Le Maroc a 5% de croissance, ça fait rêver l'Europe. Mais ces 5%, ils ne profitent pas. Ils ne profitent pas aux jeunes. Alors j'ai envie de dire, plutôt occupez-vous des jeunes.
Okay, merci beaucoup Marie Binbin, merci d'être venue sur Médien Radio. Cette interview évidemment sera disponible en podcast. Restez sur Médien.